Bonjour à tous, il est 9h, 9h tapante, c'est le début des voies de service sur Canal M. Nous sommes le mardi 5 mars et il fait bien beau dehors, frais mais bien beau, le soleil est là. Nous sommes deux dans le studio, ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé, presque je crois. Nous voilà en duo, non pas en duel, en duo, ce matin avec Yves Olivier. Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien, on est au mois de mars, c'est la dernière.
C'est la dernière ligne droite.
De c'est ça, voilà, tout va bien.
peut-être va-t-on reprendre une petite tempête de neige. Hein.
On peut en prendre une dernière.
On n'est jamais totalement à l'abri, mais aujourd'hui, généreux. En tout cas, grand soleil, grand soleil. Et nous avons des sujets, comme d'habitude. Quels sont-ils de votre côté, Yves-Olivier ?
Alors, des petits sujets de société, de la vie de tous les jours. Justement, on parle de la température, de l'hiver. Donc, on va y aller avec un rapport entre le bonheur et les pays où il fait froid, comme
d'accord,
le Canada.
La corrélation entre les deux.
Voilà. Et aussi, nos animaux de compagnie, les chiens. Hein. On est quand même une radio qui dessert beaucoup les personnes à mobilité réduite, par exemple. Et je pense que c'est une bonne chose de rendre honneur aux... à nos amis, à nos meilleurs amis. Donc c'est le deuxième sujet deux semaines de suite dont on parle des chiens. Et
parfait.
C'est un peu pour leur rendre hommage.
Voilà. Et très bien. De mon côté, des insolites comme d'habitude. Nous irons parler des sumos au Japon avec des nouvelles règles qui rentrent en vigueur. Également en Afrique du Sud pour ce tour du monde avec un pasteur auteur d'un miracle, vrai ou faux, Internet a tranché. Également, si vous avez des millions de dollars à dépenser, j'ai une idée d'achat pour vous. Voilà, on va parler de tout ça ce matin, des sujets banals, ma foi. C'est parti pour les voies de service.
Par amour pour votre chien. Alors que le cœur léger, vous êtes en balade avec Pitou, vous ne pensez pas au danger qui le guette, celui de contracter des parasites. Ceci représente néanmoins une réelle menace pour la santé de votre fidèle compagnon, que vous soyez en ville ou à la campagne. Comment les prévenir et ainsi protéger votre animal et votre famille ? C'est un texte dans la presse extra. Quels parasites peuvent s'attaquer à mon chien ? Plusieurs types de parasites peuvent contaminer votre animal, dont les parasites externes, comme les tiques et les puces, et les parasites internes, comme le ver du cœur et les vers intestinaux. Alors que les parasites externes sont visibles à l'œil nu, les vers parasitaires attaquent sournoisement le système digestif, cardiaque ou pulmonaire de votre animal. Les larves du ver du cœur, par exemple, mettent des mois à se rendre au cœur ou aux poumons de l'animal, où ils causent des ravages pouvant occasionner la mort. Les tiques, quant à elles, sont porteuses de maladies graves, dont la maladie de Lyme, alors que les puces, lorsqu'ingérées par l'animal, peuvent lui transmettre des vers intestinaux. Enfin, les humains, particulièrement les jeunes enfants, peuvent être infectés par certains types de vers transmis par leur animal. Comment peut-il les contracter ? Les parasites externes se transmettent très facilement d'un animal à un autre. Les puces peuvent se trouver partout, à l'extérieur, ainsi que dans la maison d'un animal infecté. Les tiques, quant à elles, vivent dans la végétation environnante et s'accrochent aux animaux ou aux humains qui passent à proximité. Par la suite, elles mordent pour se nourrir de sang, causant ainsi des démangeaisons et des réactions allergiques. Les occasions de contracter des vers parasitaires sont tout aussi nombreuses. Le chien qui renifle de l'herbe, de la terre ou les excréments d'un animal infecté, ainsi que celui qui mange les rongeurs ou d'autres animaux sauvages, court un risque élevé d'être contaminé. Certaines espèces de vers sont même transmises par les moustiques. De plus, il faut savoir qu'un grand nombre de chiots sont porteurs de vers intestinaux dès la naissance. Ils sont particulièrement sensibles à la présence de ces derniers et doivent être vermifugés. Comment protéger mon animal alors, on se demande. Discutez avec votre vétérinaire des traitements préventifs antiparasitaires offerts pour protéger votre chien et votre famille. Informez-vous entre autres au sujet d'une protection mensuelle de type tout en un. Vérifiez régulièrement le pelage de votre animal, surtout au retour des promenades à l'extérieur afin d'y repérer rapidement la présence de tiques. À cet effet, l'utilisation d'un peigne très fin pourra vous aider à détecter des puces ou des larves. Soyez également à l'affût des symptômes révélateurs de la présence de vers intestinaux ou de vers du cœur, comme la diarrhée, la démangeaison anale, les vomissements ou une perte de poids. N'oubliez cependant pas que les parasites internes peuvent mettre du temps avant de provoquer des symptômes chez votre animal. La prévention est la clé. Pour protéger votre animal et votre famille des risques associés aux parasites, prenez dès maintenant rendez-vous avec votre vétérinaire pour discuter des traitements préventifs. Mesurez le niveau de risque de votre animal face aux différents parasites en répondant à un questionnaire simple sur ses habitudes de vie. Voilà.
Très bien, oui, prenons soin de nos petits amis, nos amis à quatre pattes. Et en plus, avec les chiens, c'est allier l'utile à l'agréable, souvent parce qu'à la différence des chats, ils aiment bien quand on les baigne aussi. Donc allez-y, frottez
fort. Tout à fait, exactement.
La transition n'est pas évidente, mais il y en a une, un peu, si on veut. On va aller du côté du Japon avec les sumo. Et il est question d'hygiène encore, parce qu'il y a une série de nouvelles règles qui vont entrer en vigueur. Les autorités japonaises du sumo ont décidé d'interdire les barbes jugées indécentes, appelant les lutteurs à soigner leur apparence lors des compétitions. Cette interdiction fait partie d'une série de nouvelles règles bannissant également tatouages et ongles trop longs, selon un porte-parole de l'association de sumo, JSA, contactée par l'AFP. Il n'est pas rare au Japon que les entreprises demandent à leurs employés de se raser quotidiennement. Certains lutteurs superstitieux refusent d'abandonner moustache, collier ou barbe de 3 jours pendant les tournois, convaincus que cela leur portera chance. Mais la JSA ne tolérera plus cette pratique. Les lutteurs doivent être attentifs à leur hygiène. Les responsables et arbitres seront vigilants. L'arène où ils combattent est sacrée. Et il est important que les spectateurs ne voient pas quelque chose de vilain, a déclaré à la presse un responsable de JSA, Oguruma, à l'issue d'une réunion des dirigeants. Discipline la plus chérie des Japonais, à côté du baseball, le sumo, dont les origines remontent à plus de 2000 ans, s'inscrit dans la pure tradition japonaise, avec un fond Shinto, ensemble de croyances nippones. Cela lui vaut parfois des critiques sur la rigidité des règles justifiées par ce côté rituel. Les femmes, par exemple, jugées impures, ne sont pas admises sur le dojo, emplacement circulaire du combat, considéré comme un lieu sacré. L'inflexibilité du monde du sumo sur ce point avait d'ailleurs déclenché un esclandre l'an passé, quand des femmes médecins et infirmières étaient venues sur le dojo porter secours à un élu pris d'un malaise au moment d'un discours lors d'un tournoi. L'association de sumo avait dû présenter ses sincères excuses pour leur avoir demandé de descendre au plus vite. D'autres scandales ont aussi ébranlé ce milieu en raison d'accusations de maltraitance, d'affaires de drogue, de paris illégaux et de liens avec le crime organisé. Vous l'aurez compris, c'est un art ancestral, mais il est sulfureux.
Sur les sentiers de l'aube, tout près du bord de l'eau, je jouais l'éclaireur, j'allumais la beauté pour qu'elle gagne tes yeux. Tu m'as tellement manqué, et si loin des voiliers, des traînées de diamants, j'aurais voulu plonger dans le bleu vert des eaux, accompagné de celle qui m'apprend à nager. Tu m'as tellement manqué, tu m'as déserté le sentier, l'étoile mourant à mes pieds. J'aurais voulu pour nous l'histoire à écrire et croire, tout ce qu'elle disait et toi. Tu m'as tellement manqué, tu m'as. Thank you. de l'eau. De tout c'est pas perdu, maintenez l'horizon car tout n'est pas perdu, non, tout n'est pas perdu, non. Tu m'as tellement manqué, tu m'as tellement manqué.
Le groupe français Radio Elvis nous interprétait l'éclaireur.
L'éclaireur, merci Jean-Sébastien. Et éclairez-nous, Yves-Olivier, au sujet du bonheur, rien de moins.
Alors je vais essayer, vous savez que c'est pas ma force d'éclairer les auditeurs.
Faux modeste.
Vous et comme être là pour ça.
Faux modeste que vous êtes.
Moi je vais vous parler de l'hiver on se questionne s'il rend heureux ou non.
D'accord. Alors,
c'est un peu le témoignage de l'immigrant que je suis. Et lorsque je parle de mon beau pays, le Québec, souvent je dis, bon, écoutez, c'est super, mais il y a l'hiver. Donc, à vous de voir. Est-ce que c'est... Et pour certains comme moi, ça passe. Pour d'autres, ça reste un questionnement. Ils hésitent. Alors, l'hiver rend-il heureux? C'est un texte de la presse. À chaque année, depuis 2012, le réseau de solutions pour le développement durable, le SDSN, lancé par les Nations Unies, publie un rapport sur les pays sur les pays les plus heureux du monde. Et à chaque publication, ce sont les pays les plus au nord qui figurent en tête de liste. L'hiver serait-il synonyme de bonheur? Il ne faudrait pas sauter aux conclusions et penser que l'hiver y est pour quelque chose. On vante bien les mérites de la saison froide dans le numéro de suite après tout. En fait, les conditions météorologiques n'ont aucune influence sur ce classement. Ce sont davantage les éléments qui contribuent au bien-être de la population en général qui font une différence. Le revenu du pays, l'espérance de vie, le soutien social, la liberté de faire des choix de vie, la confiance envers le gouvernement et la générosité. Les 10 pays les plus heureux du monde, donc, selon ce rapport de 2018. La Finlande, la Norvège, le Danemark, l'Islande, la Suisse, les Pays-Bas, le Canada, la Nouvelle-Zélande, la Suède et l'Australie. C'est bizarre parce que c'est pas souvent les pays où on va le plus souvent en vacances, vous savez, Cuba, Mexique, République Dominicaine. Donc,
comme quoi,
c'est pas nécessaire, y a pas vraiment rapport là non plus. Essentiellement, les 10 pays les plus heureux demeurent les mêmes d'année en année depuis 2015. Seules les positions dans le palmarès diffèrent. En 2017, c'est au tour de la Norvège de rafler la tête du classement, alors qu'en 2016, le Danemark ravissait les honneurs. Le Canada fait toujours bonne figure en 5e, 6e ou 7e position selon l'année, toujours derrière les pays scandinaves. La richesse d'un pays n'a rien à voir avec son niveau de bonheur. Les États-Unis, la Chine, le Japon, donc les 3 pays les plus riches au monde, occupent respectivement les 18e, 86e et 54e rang pour le bonheur. Nos cousins français, quant à eux, se retrouvent en 23e position. Pour effectuer l'analyse, les experts derrière cet imposant rapport classent 156 pays selon leur niveau de bonheur, basé sur les résultats du Gallup World Poll de 2015-2017. Le World Happiness Report répertorie également 117 pays selon le bonheur de leurs immigrants. La conclusion la plus frappante du rapport de 2018 est certainement la presque similitude entre la liste des pays classés en fonction du bonheur de leur population et celle où ils sont classés selon le bonheur de leurs immigrants. Il s'agit en fait des mêmes pays, sauf pour le Mexique, qui se hisse en 10e position, plaçant les Pays-Bas en 11e échelon.
Intéressant. Et continuons à nous élever dans les sujets. Après le bonheur, eh bien, j'essaye d'emmener ça encore plus loin. Parlons de résurrection, si vous le voulez bien. Je vous emmène en Afrique du Sud, où un événement a déclenché une petite folie sur Twitter autour d'un pasteur et d'une vidéo qui a beaucoup circulé. un pasteur sud-africain qui prétendait avoir ressuscité un mort dans une vidéo postée sur Twitter a cartonné sur les médias sociaux où son miracle a été beaucoup vu, mais aussi abondamment moqué par les internautes. Une vidéo du pasteur Alf Luko de l'église protestante Alleluia Ministries International, apparue la fin de semaine passée sur Internet, y est rapidement devenue virale. On y voit le religieux apposant les mains sur le corps d'un homme censé être mort, vêtu d'un costume blanc et couché dans un cercueil, et qui s'anime soudainement et saute sur ses pieds. En quelques heures, le hashtag Resurrection Challenge faisait rage sur Twitter alors que les utilisateurs affichaient des images ironiques de leur propre résurrection, aux côtés de captures d'écran du prétendu miracle du pasteur Luko. Un internaute, Just Juka, s'est ainsi filmé l'air surpris assis dans sa baignoire sous la légende « Mon alarme vient de me ressusciter pour me réveiller ». Le miracle accompli par le pasteur a aussi provoqué la critique des pompes funèbres contactées pour assurer les funérailles du mort. En tant que Kings and Queen Funeral Services, nous aimerions prendre nos distances par rapport à la prétendue résurrection, a écrit la société dans un communiqué qui dit avoir décidé d'intenter une action en justice pour cette atteinte malveillante à notre image. L'église Alleluia Ministries International a aussi pris ses distances, déclarant aux médias qu'il ne s'agissait pas d'un miracle de résurrection. Elle n'a pas voulu réagir aux critiques, l'accusant de tromper ses fidèles. Moi, je trouve qu'avec ces histoires, on hésite toujours un peu entre se moquer ou se dire bah, si c'est vrai, est-ce qu'il n'y a pas peut-être la foudre qui va nous tomber dessus en sortant d'ici ce matin ? Voilà, c'est à voir, vous en jugerez vous-même sur pièce si vous croisez la vidéo sur Internet. En tout cas, ça a beaucoup fait réagir.
Ouvre tes yeux, Simon, ouvre tes yeux quand tu
La formation Les Trois Accords, messieurs, vous risqueriez-vous avec le titre de cette chanson?
Alors, on discutait, donc on n'a pas, totalement écouté.
Ouvre tes yeux, Simon.
Bon, on va ouvrir nos oreilles pour les prochaines musiques, alors. Merci, Jean-Sébastien. Sujet suivant, Yves-Olivier.
Alors, aucun rapport.
Aucun rapport.
Attendez, je regarde. Non, il n'y a vraiment pas de Simon.
Ni avec Simon, ni avec les yeux.
Rien du tout. Vraiment. Mais j'invite donc les auditeurs à ouvrir leurs oreilles. Communauto. Un service d'autopartage, ça vous dit quelque chose?
Oui, on en voit un peu quand même.
Vous l'utilisez?
Non. Je suis déjà monté dans des voitures, mais je n'utilise pas personnellement. Mais c'est pratique.
Qu'est-ce qui vous retient?
Qu'est-ce qui me retient? Les transports en commun font mon bonheur pour l'instant. Donc, oui.
Vous, Jean-Sébastien, en régime?
Moi, c'est un mélange de transports en commun et nous avons un véhicule à nous à la maison.
Mm-hmm. D'accord. Bon. Alors tout ça, c'est pas des excuses, et donc c'est pour ça que je vais vous faire, parce qu'on parle ici quand même d'autopartage, hein, l'environnement, messieurs, vous savez, hein. Donc mettez-vous du bon côté de la barrière. À Québec, un étudiant en aménagement du territoire met sur pied un service destiné à concurrencer la propriété automobile. Il crée ainsi ce qui deviendra 24 ans plus tard l'un des plus grands parcs de voitures partagées en Amérique du Nord, et surtout une solution pour un avenir plus vert. Après, vous voyez comment aujourd'hui les gens qui fument une cigarette sont jugés. Là. Bientôt, quand tu seras propriétaire d'une auto, là, on te regardera à travers.
On jettera des tomates.
C'est ça. Alors, plusieurs croient que Communauto est né du mémoire de maîtrise de Benoît Robert. C'est en partie vrai. Or, le service a connu un succès si rapide qu'il a pris son étudiant par surprise et fait de l'écologiste en herbe un homme d'affaires malgré lui. Si bien que le fondateur a remis sa thèse près de 10 ans plus tard. Mon directeur allait prendre sa retraite, je n'avais plus le choix, lance le sympathique dirigeant. L'idée a germé à l'époque où Benoît Robert était étudiant au bac à l'Université du Québec à Montréal. Il fréquentait le Mont-Saint-Bruno pour y faire du ski de fond. Mais en raison des allers-retours en transport en commun, il passait plus de temps en bus qu'en ski. Les entreprises de location de véhicules refusaient de lui louer une voiture pour quelques heures. C'est là que le jeune sportif a flairé la mission urbanistique et environnementale qui l'attendait. Candidat à la maîtrise à l'Université Laval, il entreprend des recherches sur le concept de l'autopartage. Il découvre des services comparables à Amsterdam et à Montpellier, mais aussi en Amérique du Nord, soit à Philadelphie et à San Francisco. Ce n'est toutefois jamais concluant. Lors d'un stage au ministère des Transports, on lui refile un article dont il se rappelle encore le titre « Comment les Berlinois ont appris à partager leur voiture ». Il a la conviction qu'un tel service est viable, utile et nécessaire. Il surmonte un à un les nombreux écueils, dont celui de trouver une compagnie d'assurance qui accepte de gérer un, entre guillemets, risque inconnu. Pour l'anecdote, cet inconnu, entre guillemets, trouve pourtant un visage. Le premier accident a eu lieu entre Québec et Montréal, et c'est Benoît Robert en personne qui était au volant. Donc il a pu faire le test. On a commencé avec 3 autos, 20 clients, et je n'avais pas 30 ans, rappelle l'homme de 54 ans. Aujourd'hui, Communauto dessert les grandes villes du Québec, et est présente en Ontario et en Nouvelle-Écosse. Elle a même des voitures à Paris. Bon an, mal an, elle accumule des distinctions et multiplie les partenariats. Forte du plus imposant parc de voitures au Québec, l'équipe est actuellement en pleine stratégie d'expansion et vise à dépasser son principal concurrent au pays. En décembre, nous aurons 2500 voitures au Canada, lance fièrement le président-directeur général qui ne possède toujours pas de voitures personnelles. Pour qu'un tel service ait du succès, la tarification doit être concurrentielle vis-à-vis de la propriété d'un véhicule. Communauto est vraiment utile grâce à la qualité et à la flexibilité de son offre. Il s'agit d'un service de proximité. La nuit, le jour, dans un court délai ou pour quelques minutes seulement, tout doit être possible. Elle est là la force de notre entreprise, dit Benoît Robert, fondateur de Communauto. Ce service de partage et de voitures propose 2 formules, l'une avec réservation, l'autre sans réservation. Avec la première, l'usager réserve l'une des 1000 voitures à sa disposition jusqu'à 1 mois à l'avance pour la durée de son choix, puis il la rapporte là où il l'a prise. La deuxième, appelée « automobile », entre guillemets, et en 2 mots avec un trait, comporte un parc de 600 voitures réparties de manière aléatoire dans un quartier donné. L'usager n'a qu'à bloquer son auto au moyen de l'application et il a 30 minutes pour aller la chercher. Il se déplace sans s'encombrer de rapporter la voiture à son point de départ. Fait intéressant, pour les 2 services, l'essence est incluse dans le prix d'abonnement. Communauto, vu au départ comme un service un peu grano, passe par certains du moins, prend aujourd'hui des allures de solution verte pour le présent et l'avenir, souligne son président. Et cette fois, Benoît Robert n'aura pas besoin d'en faire un mémoire de maîtrise pour le prouver. En plus, ce qui n'est pas mentionné là-dedans, qui est intéressant, que j'avais découvert parce que je suis un usager de Communauto, c'est que lorsqu'il y a une grosse tempête, le lendemain, c'est gratuit.
Ah.
Parce que vous pouvez aller, à condition d'aller le déneiger, en fait.
D'accord.
Donc, c'est une manière d'encourager les gens à le déneiger.
Quand même.
C'est donnant-donnant.
C'est pas mal intéressant.
Intéressant. Merci, Olivier. Un petit dernier sujet avant de prendre une courte pause. Vous arrive-t-il d'être énervé parfois, Yves Olivier, par des choses de la vie ?
Très rarement.
Très rarement. Oh, bon. Ouais, et comment, ouais. Comment évacuez-vous cet énervement en général ? Est-ce
La lecture, la poésie. Ah non, mais...
Très bien, des aspirations nobles, excellent. Eh bien, ça n'est pas le cas de tout le monde et c'est lié à votre sujet d'ailleurs parce qu'il s'agit de voitures. Et ça s'est passé en France. Un homme âgé de 27 ans a été interpellé par la police lundi à Cholet, dans l'ouest de la France, parce qu'il a reconnu avoir crevé près de 300 pneus de voiture dans plusieurs rues un matin de février. Des analyses techniques ont permis de confondre son ADN. Ils ont fait une recherche ADN. Lors de sa garde à vue, l'homme a expliqué avoir agi en état d'ébriété, un peu, et sous le coup de l'énervement après s'être disputé avec un inconnu dans la rue. Il a été remis en liberté sur instruction du parquet. À ce jour, près de 200 plaintes ont été enregistrées pour ces faits. Ce qui veut dire, j'ai fait le petit calcul, s'il s'en était pris à 75 voitures x 4 pneus, on les avait les 300 pneus, mais non. Là, 200 plaintes, ça veut dire qu'il allait ici et là crever des pneus sous le coup de l'énervement. On va souhaiter beaucoup de séances de yoga à ce jeune homme et vous inviter tous à ne pas vous en prendre au mobilier urbain ou aux autos des autres citoyens. Voilà. Calmez-vous, que l'on se calme. Voilà pour la seconde partie de cette émission. Reprenons Yves Olivier. De quel débat de société, sujet de société nous parlez-vous ?
Alors, on parlera de la réalité LGBT.
La réalité LGBT.
Oui, et avec Radio-Canada.
Très bien. Eh bien, allons-y. Allons-y directement.
Allons-y directement, d'accord. Mm-hmm. Alors, en fait, c'est les centres commerciaux canadiens qui ajoutent des salles de toilettes non genrées. Mm-hmm. En fait. C'est un texte qui est paru le mardi 11 décembre dans Radio-Canada. Les clients de l'un des centres commerciaux les plus importants et les plus fréquentés du Canada peuvent désormais utiliser la salle de bain, la même salle de bain, qu'ils s'identifient comme un homme ou une femme, puisque le Yorkdale Shopping Center a ouvert sa première salle de toilettes non genrée. Les nouvelles toilettes offrent une option inclusive pour tous, y compris les personnes transgenres, les personnes de différentes identités de genre et celles qui pourraient avoir besoin d'un accompagnateur, lit-on sur une affiche installée dans le centre commercial. Des salles comprenant 10 toilettes sont ouvertes au public depuis un peu moins de 2 semaines et s'ajoutent aux 7 salles de bain genrées du centre commercial, en plus de 2 installations familiales, 3 salles d'allaitement et plusieurs toilettes individuelles. Yorkdale s'efforce d'offrir aux clients et aux employés le choix d'utiliser l'option qui leur convient le mieux, peut-on lire sur la même affiche. Le centre commercial n'est pas le premier à agir ainsi. La société immobilière Ivanhoé Cambridge, qui exploite 28 centres commerciaux à travers le Canada, propose des toilettes universelles depuis un certain temps. Nous avons identifié le besoin de telles installations il y a quelque temps, a déclaré Roman Drohoy-Meriki, vice-président exécutif et chef de l'exploitation du secteur de la vente au détail. Il affirme que son intention est de fournir aux acheteurs et aux partenaires de vente au détail un environnement invitant et sûr. Tous nos nouveaux projets comprennent des toilettes universelles. Toutes nos rénovations ou nos réaménagements nécessitent l'ajout de toilettes universelles, en plus de nos toilettes réservées aux femmes et des pièces dédiées aux familles. Dans nos centres, une salle de bain universelle est conçue pour une seule personne à la fois. Cadillac Fairview et Morguard, qui possèdent plusieurs centres commerciaux au Canada, n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires concernant les salles de toilettes neutres en matière de genre dans leurs installations. Le Musée royal de l'Ontario à Toronto possède lui aussi des toilettes non genrées.
Et il y a même plus que des toilettes aussi, le mot m'échappe, des vestiaires dans les piscines. La piscine où je vais régulièrement, c'est pour tout le monde. Et
moi aussi, exactement.
Ça se passe très bien, ma
parfait,
foi.
C'est parfait, exactement. Oh, ouais.
Avez-vous quelques millions de dollars à dépenser comme ça?
Seulement quelques.
Seulement quelques.
J'ai pas encore parlé avec les dirigeants de la chaîne de radio, donc on est en négociation.
On va
ça
se rencontrer.
Ça se pourrait.
Très bien. Bah, si c'est seulement quelques millions, j'ai peut-être une bonne affaire pour vous. Un ranch, et pas n'importe lequel, est à vendre, celui de M. Michael Jackson. Il est à nouveau sur le marché.
Il ne faut pas
le dire, attention, on va avoir des problèmes. Le vaste ranch du roi de la pop Michael Jackson en Californie, Neverland, est de retour sur le marché immobilier au prix de seulement, c'est une aubaine, 31 millions de dollars, un montant bien inférieur aux 100 millions réclamés 4 ans plus tôt. La propriété de plus de 10 km² située près de Santa Barbara comprend notamment 22 bâtiments dont une maison principale de 6 chambres, un lac et un court de tennis. En mai 2015, le ranch avait été mis en vente pour 100 millions de dollars après avoir été rénové par une société d'investissement, un prix jugé optimiste par certains experts à l'époque, qui pointaient le lien de la propriété avec toutes les affaires qui s'y sont peut-être déroulées et dont a été accusé Michael Jackson tout au long de sa carrière. Le ranch avait été perquisitionné en 2003 dans le cadre de l'enquête, le rabais conséquent est en partie dû à la sécheresse qui a touché la région et a affecté le marché immobilier local, a déclaré aux médias américains l'un des agents en charge du dossier. Mais la demeure est en bon état, selon lui. Michael Jackson aurait payé 19,5 millions de dollars dans les années 80 pour acquérir cette propriété dont il avait fait un parc d'attractions comprenant un mini-zoo, des jeux et des jardins. Une société immobilière l'avait racheté en 2008 pour 22,5 millions de dollars. Le roi de la pop était mort l'année suivante. Cette annonce intervient alors que HBO doit diffuser dimanche un documentaire de 4 heures intitulé « Leaving Neverland » qui retrace l'histoire de deux trentenaires assurant avoir été victimes d'abus sexuels de la part de Michael Jackson lorsqu'ils étaient âgés de 7 et 10 ans. Neverland est le lieu fictif dans l'œuvre de G.M. Barrie où se déroulent les aventures de Peter Pan et ses amis qui ne veulent pas grandir. En 1993, un adolescent avait lui aussi porté plainte pour une affaire similaire. L'affaire s'était réglée à l'amiable et en 2005, Michael Jackson était passé en jugement également pour un autre mineur mais avait été acquitté. Effectivement, toutes les histoires autour de ce lieu sont un peu sombres, mais il a été rénové complètement. Peut-être qu'on peut y tenir des belles histoires maintenant, un peu plus pacifiées.
Vous m'avez convaincu, je sors mon chéquier.
Parfait, excellent.
Des jolies filles, des têtes d'acné, un homme ou la femme.
déjà le 5 mars et le beau temps s'en vient tranquillement, mais sûrement. Le soleil est déjà là. Aujourd'hui, ça nous donne envie de tomber la chemise, mais bon, avec le facteur 20, peut-être un peu moins. Non, on n'est pas convaincu, Yves Olivier.
Il faut juste suivre le vent.
Juste suivre
le vent. Avoir le vent dans le dos, et voilà.
Bon, nous avons gardé.
Vous faites comme vous voulez, là.
Nous avons gardé nos chemises dans le studio quand même. Il est bien chauffé, mais voilà, on va se garder une petite gêne ce matin. Et passer au sujet suivant. Nous parlez-vous de chemise? Pas du tout.
Non, encore une fois. Un autre sujet, un sujet de société.
Jean-Sébastien vous tend des perches et vous ne suivez pas.
Celle-là, par contre, on va loin. On voyage, on s'en va en Inde.
Mm-hmm.
Et on va parler du tabou des règles. Et par les règles, j'entends là les menstruations.
Oui, effectivement.
Vous êtes au courant du documentaire qui a été récompensé par les Oscars?
Non, pas jusque-là, mais je sais que le sujet, tout ce qui touche à la féminité dans ce pays-là est problématique souvent.
Oui, tout à fait. Donc, on est bien content qu'en tout cas, les Oscars ont rendu hommage à un documentaire qui parle de cela. Là, je vais vous parler d'un texte d'Alcyone Wehmaer du 25 février 2019 dans France 24. Le documentaire « Les règles de notre liberté », ça c'est le titre, a reçu dans la nuit de dimanche à lundi l'Oscar du meilleur documentaire court. Quand je dis de dimanche à lundi, c'était de la semaine d'avant. Le film s'intéresse au tabou des menstruations en Inde, où moins de 12% des femmes ont accès à des protections adaptées. Je n'arrive pas à croire qu'un film sur les menstruations ait gagné un Oscar. La réalisatrice irano-américaine Raika Zetabachi n'a pas caché sa surprise et son émotion dans la nuit de dimanche à lundi 25 février en recevant l'Oscar du meilleur documentaire court pour son film « Les règles de notre liberté ». Son documentaire de 25 minutes, actuellement disponible sur la plateforme Netflix, s'intéresse en effet au tabou des règles dans l'Inde rurale où les serviettes hygiéniques sont tellement rares que la plupart des jeunes filles ne savent pas ce que c'est ou en ont. Les jeunes filles ne savent pas ce que c'est ou en ont au mieux entendu parler à la télévision. De fait, moins de 12% des Indiennes ont accès à des protections hygiéniques. Le sujet est complètement tabou dans le pays, au point que selon l'un des protagonistes du documentaire, les filles n'en parlent pas à leur mère, les maris n'en parlent pas à leurs femmes, les amis n'en parlent pas entre elles. C'est le pire tabou de notre pays. Interrogée par France 24, la réalisatrice de Ask the Sexpert, Vaishali Sinha, consultante pour le documentaire « Les règles de notre liberté » et qui a grandi en Inde, témoigne de l'omerta qui entoure les règles dans son pays d'origine. « Lorsque j'ai eu mes premières règles, je me suis brièvement passé par une phrase... où j'étais trop timide pour demander des serviettes hygiéniques à ma propre mère. Elle confirme n'avoir aucun souvenir de discussion sur le sujet à l'école ou même avec ses copines de classe. » La force de « Les règles de notre liberté » est de montrer les compétences d'un tabou qui est loin de se limiter à la seule santé des femmes, lesquelles sont parfois réduites à utiliser des feuilles ou de la sciure de bois. Car au-delà de la question de l'hygiène, c'est également l'éducation des adolescentes qui est en jeu. Dans le documentaire, une femme explique avoir laissé tomber l'école quelques mois après ses premières règles, faute de protection adaptée, et tout simplement d'endroit où se changer dans l'enceinte de son établissement, tous ne disposant pas de toilettes. Une histoire qui n'est pas exceptionnelle. Près d'un quart des jeunes indiennes sont contraintes pour des mêmes raisons d'abandonner leur scolarité. Dans le village situé à 60 km de New Delhi, où a été tourné en grande partie le documentaire, les règles finissent par devenir un vecteur de liberté ou d'indépendance. Les femmes se mettent à fabriquer à moindre coût leurs propres serviettes hygiéniques grâce à la machine Darunachalam Muruganantham. Un entrepreneur classé en 2014 par le magazine Time comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde pour cette invention. En vendant le surplus de leur production, certaines femmes gagnent pour la première fois un revenu et l'une d'elles finance ainsi une formation à l'école de police de New Delhi. Si le documentaire se concentre sur un village, Vaishali Sinha estime que le tabou des règles ne se limite pas à l'Inde rurale. Le patriarcat et ses conséquences sont profonds en Inde. Les gens ayant grandi dans les villages ou les petites villes amènent aussi leur propre sensibilité. De plus, le niveau d'éducation n'a pas nécessairement amélioré la qualité de vie des jeunes filles et des femmes. Pour tenter de briser le tabou, des campagnes et des actions sont de plus en plus fréquentes. En 2015, un fabricant de protection hygiénique avait ainsi tourné en dérision dans une publicité la croyance très répandue dans le pays selon laquelle une femme ayant ses règles et touchant une jarre de cornichons la rendrait impropre à la consommation. Le slogan de la campagne était « Touch the pickle », « Touche le cornichon ». En mai 2017, la jeune poétesse féministe Aranya Johar, qui dit rêver d'un monde qui célébrerait le seul sang qui coule sans violence, dénonçait dans une vidéo vue des millions de fois sur YouTube les réflexions misogynes sur les règles. Quelques semaines plus tard, à New Delhi, des étudiants organisaient une campagne intitulée « Saigner sans peur » pour réclamer l'installation sur leur campus de distributeurs automatiques de protection féminine. Plus récemment, en juillet dernier, le gouvernement indien a renoncé à imposer une taxe de 12% sur les serviettes hygiéniques, rangées dans la catégorie « produits de luxe », dans le cadre de sa réforme fiscale. Le résultat d'une intense campagne de plus d'un an dénonçait la taxe sur le sang sur les réseaux sociaux. Vaishali Sinha se réjouit de toutes les initiatives, mais estime qu'elles ont aussi leurs limites. Les campagnes de sensibilisation sont super et c'est formidable qu'il y ait un débat public ouvert avec une approche féministe. Néanmoins, je ne pense pas que l'on puisse éviter une discussion sur l'ensemble des problèmes qui, à mon sens, se résolveront grâce à des conversations ouvertes et appropriées à chaque tranche d'âge.
Restons du côté de l'Asie, en Thaïlande très exactement, où je vais vous parler d'une petite chanson, si vous voulez bien. Une ballade écrite, alors pas par n'importe qui, par le chef de la junte, et c'est à visée électorale cette ballade. Le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande depuis 5 ans, parolier de chansons pop sirupeuses à ses heures, a sorti lundi sa dernière ballade, qui traite de voie démocratique à l'approche d'élections longtemps repoussées qu'il ambitionne de remporter. « Nous sommes en quête d'un jour nouveau dans l'histoire de la Thaïlande vers une voie démocratique », dit la chanson du général Prayut Chan-o-cha, chantée par deux soldats et diffusée sur YouTube. « Un jour nouveau arrive pour la Thaïlande afin que nous puissions résoudre les erreurs du passé », poursuit-elle. Nourriture, feuilleton de télévision, tenue vestimentaire, le chef de la junte aime dispenser ses conseils sur les sujets les plus divers, n'hésitant pas à diriger en survêtement une séance d'aérobic dans les jardins du siège du gouvernement, au milieu de centaines de fonctionnaires ou à s'improviser parolier de chansons. Connu aussi pour ses déclarations à l'emporte-pièce, ses gaffes et ses colères froides, le général, autoproclamé Premier ministre depuis le coup d'État de 2014, aime cultiver l'image d'un homme proche du peuple, notamment lors d'un rendez-vous télévisé hebdomadaire. Il ambitionne désormais de devenir officiellement chef d'un gouvernement élu, si son parti remporte les élections législatives du 24 mars. Les militaires ont pris le temps ces dernières années de verrouiller l'espace politique, changeant la constitution pour s'assurer que le Parlement soit contrôlé par un Sénat nommé. Mais plusieurs dizaines de partis s'affrontent pour ces élections, dont certains de l'opposition, comme le parti Future Forward, pourraient créer la surprise. Le général voyage depuis des mois à travers les provinces du pays pour séduire des électeurs fidèles au parti du gouvernement renversé, aujourd'hui dans l'opposition. Le général n'a pas précisé pour l'heure s'il utiliserait sa nouvelle chanson « Jour nouveau » pour sa campagne, mais voilà qui est original, après avoir verrouillé tout l'espace public, terminé par une petite chanson et espérer rendre tout ça démocratique.
Dans la lignée des Mexicains, là, les cartels, mm-hmm. les chanteurs...
Ah oui, effectivement, oui, effectivement.
Comme quoi le rapport à la musique, hein, dépendamment des pays, n'est pas le même.
On peut l'utiliser, effectivement. Now I found a reason to keep on. Yeah.
Alex Nevsky et la pièce « Mille raisons ».
Mille raisons et mille articles. On est peut-être à 1000 articles dans l'émission depuis le début de l'année.
Peut-être.
Bon, on y racontait.
Mais j'aimais bien cette chanson d'Alex Nevsky. Ça va un peu avec ce dont je vais vous parler.
Mm-hmm.
Je vous parle de mode. C'est Iris Gagnon Paradis de La Presse, qui, grâce à la mode, veut donner, redonner de l'amour au centre-ville de Montréal.
D'accord. On parle de vêtements, là, ou de mode en général?
De mode en général, mais ça va aller aussi loin que le Festival Mode et Design, mais ça commence cette semaine, en fait. En fait, les travaux dans la rue Sainte-Catherine, l'hiver et les trottoirs glacés, les nouvelles offres commerciales en banlieue, toutes les raisons qui font que le centre-ville de Montréal perd de son pouvoir d'attraction. Véritable amoureux du centre-ville, Chantal Durivage et Jean-François Davio, les deux têtes chercheuses derrière le groupe Sensation Mode, veulent renverser la vapeur avec XPMTL, un projet événementiel ambitieux qui sera lancé officiellement jeudi. Depuis 20 ans, le groupe Sensation Mode développe son expertise dans l'organisation événementielle en mode et design, avec notamment son projet phare, le festival Mode et Design, qui se déroule au mois d'août à l'extérieur, en plein centre-ville montréalais. Au fil des années, nous avons développé notre amour et connaissance du centre-ville. Partout à l'international, les grands centres urbains vivent des changements et rencontrent d'immenses défis, qu'on pense à l'accessibilité, aux achats en ligne et au développement de nouveaux pôles d'attraction. La question qu'on s'est posée, c'est comment contrebalancer ces changements et utiliser le centre-ville pour faire vivre des expériences. Détaille Jean-François Davio, cofondateur du groupe Sensation Mode avec sa femme Chantal Durivage. La réponse, XPMTL, un projet ambitieux qui s'est donné comme mission d'animer le centre-ville à l'année avec 4 saisons aux différentes thématiques qui permettront de créer, espère le duo, un véritable écosystème en utilisant tout le terrain de jeu du centre-ville afin d'offrir différentes expériences, autant extérieures qu'intérieures. Il faut donner au centre-ville l'amour qu'il mérite, lance Madame Durivage. Dans cette réflexion, amorcée il y a 2 ans, le duo est bien sûr allé à la rencontre d'acteurs stratégiques afin de le guider dans ses démarches. Ainsi, le groupe Sensation Mode a réussi à rassembler autour de XPMTL des partenaires de taille, Ivanhoé Cambridge, la ville de Montréal, Tourisme Montréal, Cobinard et le gouvernement du Québec, entre autres. Tous sont rassemblés autour d'une volonté, redonner au centre-ville ses lettres de noblesse et le garder vivant à l'année en proposant autant aux travailleurs, aux résidents qu'aux touristes des expériences inédites, surprenantes et enthousiasmantes. Il y a une multitude d'événements existants qui se passent déjà au centre-ville. C'est le cœur économique du Québec. Mais les Montréalais ont un peu perdu leur relation avec leur centre-ville. L'idée, c'est de rassembler tout cela au sein d'une programmation artistique dans une mise en scène. Bref, de créer un fil conducteur. À l'aube des travaux, dans la rue Sainte-Catherine, ça devenait encore plus important de créer un achalandage, estime M. Davio. Le tout prendra des formes diverses, donc installations scénographiques offrant aux passants des lieux pour prendre une pause, performances diverses utilisant le centre-ville comme une salle de spectacle, parcours, événements de type 5 à 7 comme les métro-sessions, sans compter la contribution espérée de plusieurs acteurs clés du centre-ville. On pense aux différentes écoles, aux musées, à la STM, qui pourront agrémenter les différentes saisons. Ainsi, la saison voyage, qui sera officiellement lancée jeudi avec le Block Party, un grand événement musical au coin des rues McGill et Sainte-Catherine, rassemblant plusieurs artistes et DJ, prendra Montréal comme destination thématique. L'occasion de mettre en valeur tout le talent montréalais dans différentes sphères, de la mode à la musique, en passant par la danse urbaine. Il y aura plein de surprises au cours des prochaines semaines. Déjà jeudi matin, les gens vont sentir le cœur du centre-ville battre.
Très bien, il faudra donc se promener en centre-ville pour voir tout ça. Je n'y vais pas souvent, mais vous m'avez donné envie d'aller jeter un coup d'œil et voir l'animation qui va s'y produire. C'est vrai que c'est plus ce que vous décrivez a l'air plus agréable que les sons des marteaux-piqueurs et des grosses machines qui font tourner le béton en centre-ville. Très bien, bah merci pour cet article, Yves-Olivier. Et c'est ce qui conclut cette émission. On s'en est sorti, même à deux, ça va. On ne s'est pas laissé endormir par le rythme de sénateur qu'on a quand on est à trois. On est en forme, on est là. On pourrait même la faire tout seul, je suis sûr, cette émission, chacun de nous trois.
C'est sûr.
Merci d'avoir passé cette heure en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Nous serons probablement trois à nouveau. Oui. D'ici là, eh bien, portez-vous bien. Merci à Jean-Sébastien La Liberté, je ne l'oublie pas, il est toujours là, pour la mise en onde et les choix musicaux. Et à la semaine prochaine.
Merci, bonne semaine.